C'est ça, les îles du Frioul vont résonner au rythme du Maloya et des polyphonies corses, entre autres, avant de partir pour la Turquie, un détour entre le folk, la pop et la musique traditionnelle turque. J'ai l'immense plaisir, et je le dis volontairement comme ça, d'accueillir Daniel Waro. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être passé au micro de la grenouille.
Le plaisir pour moi.
Alors, il est partagé.
Dans un lieu magique comme ça, oui, c'est super. C'est la deuxième fois que je viens ici, mais ça fait longtemps. Tu es venu en 93.
D'accord.
Voilà, et c'est super de revenir ici pour chanter, pour faire de la musique.
Oui, c'est un caractère magique. Je vous ai écouté tout à l'heure pendant les balances. J'ai vu que vous y preniez un certain plaisir.
De toute façon, oui, quel que soit l'endroit. Quand je chante, j'essaye de me faire plaisir à moi-même, parce que certains disent je fais plaisir aux autres, je dis non, je me sers en premier, je m'envoûte, je me fais plaisir, je danse, voilà, je me guéris, je me libère en chantant, et s'il en reste un peu pour vous, ben tant mieux, mais je me sers en premier.
Moi, j'ai l'impression que c'est une guérison mutuelle, hein, véritablement.
Oui, j'espère, je pense que bien sûr, quand le public est là, quand il y a la réponse dans les yeux, dans les corps, il y a un retour comme ça, c'est magique, c'est vrai. Le public est très important, bien sûr, je dis ça. Je chante vraiment tout seul aussi, mais quand il y a le public, c'est merveilleux. Et là, en plus, avec Jean-Claude, avec Affiletta, c'est encore une autre dimension.
Que j'ai le plaisir d'accueillir également Jean-Claude Acquaviva. Bonsoir.
Bonsoir.
Cette rencontre me paraissait improbable entre les musiques de La Réunion et les musiques de la Corse. Il y a, hormis le fait que ce soit des îles, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de cette rencontre? C'est une volonté entre deux individus ou entre deux musiciens? Alors.
D'abord, je crois que nous sommes nous-mêmes organisateurs d'un festival à Calvi, qui se tient chaque année en septembre, et on a eu l'occasion d'accueillir Daniel Waro, qui nous a plus que séduit, je ne sais pas quel est le terme à employer. C'est quelqu'un qui a un charisme tout à fait exceptionnel. C'est un musicien qui a un mode de vie et de production qui est en accord total avec sa musique. Et nous savions dès 2003 qu'un jour ou l'autre, nos routes se croiseraient. Parce que dès qu'on l'a entendu, on a dit, putain, ça serait vraiment génial de faire quelque chose avec lui, avec son équipe. Et puis l'occasion s'est présentée, c'est Philippe Conrad qui nous l'avait présenté, d'Africolor.
D'accord.
Et puis 2, 3, 4 ans après, on a repris contact et on a dit, bon, c'est le moment peut-être venu de faire un travail. Voilà.
La création, elle s'est passée où? Elle s'est passée en Corse? À La Réunion? Comment ça s'est goupillé tout ça?
Ça a commencé par la Corse, mais c'était une création qui s'est faite aux Rencontres Jeux Polyphoniques, mais en coproduction, je dirais, avec le festival Africolor. Et donc, la première a eu lieu à Calvi, et puis 2 mois après, on a chanté dans le cadre du festival.
C'est pas trop compliqué de mélanger les langues, en fait, les langages, le créole réunionnais avec le corse, parce que c'est quasiment une langue à part entière,
oui,
au niveau rythmique.
Jean-Claude a fait un gros travail en amont, c'est-à-dire que lui s'est intéressé à faire des voix, des arrangements de voix sur mes chansons. Nous, donc ça, c'était un gros travail. Qui était pour moi important, parce que moi, je n'aurais pas fait ce travail-là. Donc, ce gros travail de choisir quelques chansons, et lui, il avait déjà des arrangements proposés, des couleurs comme ça. Et nous, après, on a travaillé plus des rythmiques, mettre plus le rythme, nos instruments, sur leur chant polyphonique. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui harmonise, qui fait un gros travail. Et il a fait vraiment un gros travail avant que commence même la résidence, l'échange. Et pour moi, c'est très important, parce que moi, je sais pas le faire, et ça m'a mis à l'aise. Et c'est vrai que c'est au début, on se dit non, mais on est dans la rythmique comme ça, et là-bas, c'est les chants. Mais pour moi, il y a l'instrument de la voix qui est pour moi le premier instrument. Donc, quand je me mets au milieu des voix corses, des voix polyphoniques, des voix d'Affiletta, je me sens bien, je suis transporté, je suis dans un nid. Voilà. Donc, Et j'aime bien la voix, et c'est important la voix. Et c'est pas seulement le rythme, c'est la mélodie, c'est la voix, c'est l'harmonie. Même si je sais pas le faire, harmoniser, trouver les bonnes voix, et ça me fait beaucoup plaisir d'être dans ce nid-là, dans ce bain-là. Et donc, et puis il y a la poésie, il y a le côté sacré qu'il y a dans la voix, de toute façon, dans la chorale, dans les chants en groupe, et dans les choix des textes aussi, dans les choix des mots, dans les choix de la démarche. Donc il y a l'amitié, il y a l'humanité, il y a les sentiments, la poésie, tout ça qui de toute façon ouvre le chemin vers cette création d'abord. Après les trucs entre guillemets techniques. Ça vient en travaillant, et on en a encore beaucoup à travailler, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup encore à travailler pour être tranquille, disons, pour proposer quelque chose de tranquille, d'agréable, de plus agréable encore. Voilà.
Mais parce que vous avez une énergie débordante, j'ai envie de dire, quelque chose qui explose comme ça, quand c'est confronté aux polyphonies corses, qui sont des choses, comme vous disiez, plus sacrées, plus posées. Comment ça se passe d'un point de vue technique, là, pour le coup ?
Mais d'abord... D'abord, je voudrais corriger un petit peu ce qu'il a dit, parce que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Nous, on a fait un certain travail. Eux, ils sont arrivés, ils nous ont formés à plein d'autres choses. D'accord. Aussi, évidemment.
Bien sûr.
C'est sûr que peut-être nous, le vocal est notre force, là où chez eux, la rythmique est quelque chose d'extrêmement fort, puissant, de naturel. Et c'est vrai que, a priori, la rencontre semblait, je ne vais pas dire difficile, mais semblait devoir nécessiter, je dirais, des efforts, évidemment. Bon, donc on a fait des efforts et on continue à les faire. Et nous aussi, il faut qu'on travaille encore beaucoup pour être totalement à l'aise sur le plan rythmique. Maintenant, ce qu'on retient de cette rencontre, je crois que c'est là l'essentiel, c'est ce qu'il disait, c'est que la difficulté technique, quelle qu'elle soit, lorsque sur le plan humain la rencontre est forte, je crois que ce qui fait l'intérêt d'une rencontre comme celle-là, c'est que c'est beaucoup plus qu'un, deux, trois, dix, quinze ou vingt spectacles. Mmh. C'est une des liens très puissants tissés entre des gens qui ont la conviction de partager un certain nombre de choses sur le plan philosophique, éthique, sur le plan de la façon dont on voit et conçoit le monde, dont on voit et conçoit la musique, etc. Et ça, c'est un régal. Et honnêtement, je le dis encore une fois sans flatterie, il le sait, c'est un immense artiste, et pouvoir le servir avec nos voix, c'est un grand privilège.
Pour avoir vu les balances, encore une fois, le privilège va être totalement partagé. Et il y a quelque chose de l'ordre du sublime quand on vous voit. Mais il n'y a que des hommes, par contre, sur scène. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les polyphonies corses et Affiletta sont ultra masculines. Et pareil pour Daniel Warreau. Mais il n'y a pas de musicienne, chanteuse
qui pourrait... Il y a plein de musiciennes. Il y a des femmes qui mènent le bal, comme on dit, par exemple, dans des cérémonies rituelles où la femme est très importante, un rôle très important. Maintenant, sur la façon de fonctionner, la société, comment elle fonctionne par rapport à un groupe de musique, par rapport à sortir, à aller voyager, à disponibilité, tout ça, il aurait pu y avoir des filles, mais on a commencé, il y avait des filles dans notre groupe il y a 25 ans. Et après ça c'est, moi j'étais même un peu en brigade volante comme ça, en faisant du stop et aller jouer dans les cabarets et trouver les musiciens sur place, et ça s'est fait comme ça. Mais il n'y a pas une volonté d'être masculin, ou et peut-être il y a un manque de volonté de féminiser, il y a peut-être un, mais ça s'est fait comme ça et sans penser vraiment réellement à ce problème là à cette façon de voir là. Les musiciens ont été choisis comme ça. On a été obligé, même à un moment donné, de choisir 5 musiciens par exemple pour sortir de la réunion.
Oui, bien sûr, c'est compliqué.
Je ne pouvais pas faire du stop et trouver les musiciens au
Japon.
Mais
vous faites toujours du stop à la réunion, c'est ça?
Oui, moi je fais toujours du stop.
Vous êtes connu pour ça en tous les cas.
Je fais toujours du stop, ouais. Et c'est vrai que c'est de plus en plus facile d'être pris en stop, voilà. Mais j'ai toujours fait, même avant d'être connu. Voilà, et voilà, on a choisi comme ça, et on est toujours à 5 ou 6 personnes. Mais dans les cabars, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cabars, c'est le chant à terre, la danse à terre, tout le monde ensemble. Il y a ce que j'aime bien, c'est pas un groupe et un public, c'est tout le monde est en autour, dans le rond, comme on dit, dans l'arène, et on chante et on danse. Et celui qui veut prendre l'instrument, il prend l'instrument. Celui qui veut chanter, il chante. Celui qui veut danser. Et là, il n'y a plus le masculin ou le féminin à ce moment-là, c'est tout le monde. Enfin, ma façon de concevoir les choses. Après, l'organisation au niveau groupe, c'est plus. Voilà, c'est plus compliqué.
Maloya, c'est masculin ou féminin ?
Ah, il y en a qui disent la Maloya, mais c'est plutôt le Maloya, mais encore qu'en créole, le féminin, le masculin, c'est encore une autre complication encore, parce qu'il y a une catégorie de gens qui font des féminins et des masculins, et il y en a qui font pas du tout de masculin et de féminin. D'accord. Et c'est-à-dire que, on va dire lui pour le masculin et le féminin, pour dire lui ou elle, il ou elle, et il y en a qui vont faire la différence, vont dire elle, et il y en a qui vont dire lui.
D'accord.
Pour il, voilà. Donc c'est encore, c'est dans la langue, c'est pas très défini aussi, c'est pareil, c'est un peu flou.
Vous êtes allé, Jean-Claude, encore en Corse, oui, encore bien sûr, mais à La Réunion.
À La Réunion, non, pas encore.
D'accord.
Pas encore.
Vous connaissez pas encore les cabars et tout ça ?
Non, pas encore.
Et au niveau de la langue, vous chantez en créole réunionnais ou en corse ?
Alors,
sur cette création-là ?
Il y a un certain nombre de choses qui sont. Bon, honnêtement, on n'a pas forcément cherché, je dirais, faire la preuve qu'on pouvait chanter en créole ou lui en corse. Naturellement, il y a certaines choses qui sont chantées nous en corse, lui en créole, certaines choses que l'on chante en créole avec lui, il chante en corse aussi, mais sans que nous ayons eu la préoccupation, je dirais, de vouloir absolument les uns et les autres apprendre un petit peu de corse, de créole. L'enjeu n'était pas là, évidemment. voilà.
Trop compliqué.
Pour ce qui est des polyphonies corse par rapport à la présence
féminine
ou l'absence féminine.
Ou l'absence.
L'absence. Très, très rapidement, sur le plan purement traditionnel, bon, c'était un chant, le chant polyphonique est un chant à l'origine du partage du travail, du labeur, etc. Donc les hommes travaillaient ensemble et s'est développé un répertoire qui est un répertoire d'hommes. Les femmes chantaient ensemble. C'est vrai que il n'y a pas ou peu d'exemples de polyphonie féminine. Il n'y en a pas de polyphonie
mixte.
Sans aucun doute pour des raisons sociales, évidemment, mais aussi pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'on ne chante pas dans les mêmes tessitures. Et lorsque vous chantez deux hommes et une femme, le son qui est produit n'est absolument pas le même que quand c'est trois hommes ou trois femmes.
D'accord.
Et encore que trois femmes, c'est plus compliqué encore, parce que comme elles chantent plus haut, la production d'harmonique n'est pas aussi évidente que pour des hommes. Voilà. Donc il y a des explications. En tout cas, qui tiennent à la tradition, je dirais, en quelque sorte. Mais pour ce qui est de Davilleta, ça n'est absolument pas aussi une volonté d'écarter les voix féminines. C'est simplement que, traditionnellement, c'est un chant qui nous a été transmis de cette façon, et que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il sonne, et qu'on a fait que prolonger des choses que nous avions acquises.
Bien sûr.
Ce qui est bien pour revenir là-dessus, c'est qu'à La Réunion, il y a des femmes dans ce qui se produisent en tant que leader, parce que les femmes sont souvent des choristes ou des danseuses, tout ça. Et là, de plus en plus, il y a des femmes qui s'affirment en tant que leader de groupe, qui écrivent, qui composent, tout ça. Bon, ça, c'est une bonne chose pour rétablir un peu l'équilibre, si on peut dire, de la réalité, parce que les femmes sont présentes dans les cérémonies, tout ça. Voilà.
Daniel Waroux, vous avez travaillé avec Titi Robin. Oui. Je ne citerai pas tous les artistes avec lesquels vous avez monté des projets et créé des spectacles. Vous avez pensé un jour travailler avec Jean-Claude Acquaviva ? Vous l'aviez imaginé ou pas du tout ?
Non, je n'ai pas imaginé. J'entends des choses extraordinaires, des chants, des voix qui m'attirent, qui m'intéressent. Mais après, L'idée de travailler ne vient souvent pas de moi. Moi, je suis plutôt dans comme ça. On est entre musiciens et puis voilà, l'occasion se présente, on fait un bœuf, on se rencontre. J'envoie ma voix, voilà. mais je suis pas dans une production, dans une envie de production ou de créer vraiment dans ce sens-là. C'est plus le travail, l'idée. Eh bien, de Jean-Claude, l'envie et l'idée de Jean-Claude, et ou le travail de Philippe Conrad, qui lui s'occupe justement de faire rencontrer des groupes, tout ça. Mm-hmm. Et moi, je suis plutôt dans l'improvisation ou dans la circonstance, la situation. Voilà. Et bien sûr, quand je peux chanter, il y a des gens qui chantent et qui dansent. Quand j'arrive à mettre mon grain de sel dedans, c'est merveilleux. Quand ça me plaît, bien sûr, ça. Mais c'est toujours comme ça, un peu comme ça.
Affiletta, vous allez danser sur scène ce soir au rythme du Maloya.
Si la scène est suffisamment costaud, voilà, pour soutenir nos poids respectifs, je reviens une seconde sur ce qu'il dit.
Oui, je vous en prie.
Je, pour donner un éclairage, je crois. Je, encore une fois, je suis pas là pour le
non, mais
faire aller chale
je,
dans tous les sens.
Non, mais je comprends.
Sens.
Enfin, Monsieur Warjo est quand même quelqu'un voilà. d'assez exceptionnel.
Non, c'est quelqu'un d'assez
immense artiste.
Non, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que je crois que si lui ne provoque pas des choses, c'est plus par modestie et parce que il est extrêmement à l'aise dans sa musique. Je crois qu'il a, je l'ai vu, on l'a vu lorsqu'on a travaillé en résidence avec lui. Sa préoccupation, c'était de ne pas nous gêner. Voilà. Donc, je crois que ça en dit long sur sa démarche. Je crois qu'il y a ça aussi. S'il ne provoque pas les rencontres, c'est peut-être par modestie, par crainte ou par précaution, en quelque sorte. Précaution au bon sens du terme. Il a toujours peur d'altérer, de ne pas être, de vous gêner, etc. Voilà. Je crois qu'il fallait le dire.
C'est le même,
mais il se dévoile
c'est
des choses
extraordinaires.
C'est le même
souci pour Jean-Claude aussi. Hein,
Vous parliez du sacré tout à l'heure. Le Maloya est une musique évidemment sacrée qui s'adresse aux ancêtres.
Oui.
Les polyphonies corses, l'aspect sacré, est-ce qu'il est semblable
il est,
à celui du Maloya?
Il y a un côté sacré au répertoire vocal. D'abord parce que en Corse, contrairement au Maloya, une grande partie du répertoire est du répertoire religieux. Donc sacré au sens religieux. Ça, c'est un fait. Maintenant, il est évident aussi qu'il y a toute une partie du répertoire dépasse aussi le cadre du religieux, mais reste quand même une production sacrée. Parce que, encore une fois, en Corse, la frontière, je dirais, entre le religieux et ce qui ne l'est pas est très ténue. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de groupes en Corse, par exemple, qui sont capables, susceptibles de chanter des offices, chanter la messe, etc. Et parmi eux, il y a peut-être des gens qui ne croient absolument en rien, sauf que ils sont là par solidarité, ils sont là parce qu'on accompagne un défunt, ils sont là parce qu'ils soutiennent une famille, etc. Et donc le caractère sacré du chant n'est pas uniquement lié au religieux, sauf que il y a aussi une grande partie du répertoire qui est du répertoire religieux, ce qui n'est pas le cas du Maloya, pas que je sache.
Oui, c'est-à-dire que dans le Maloya, il y a la part sacrée, c'est par exemple, dans les cérémonies, les anciens ou dans les services qu'on appelle d'origine afro-malgache, il y a des morceaux réservés pour communiquer avec l'ancêtre, communiquer avec l'esprit des ancêtres et donc faire plaisir aux ancêtres. Là où il y a communication, donc la transe, tout ça, ça c'est le côté un peu sacré. Maintenant, le fait qu'il y a des mélanges de races, d'origine à La Réunion, entre les Noirs esclaves, entre les Noirs engagés, et entre les Malgaches, les Indiens, et les Blancs, et les Métis Blancs et Chinois, tout ça, ça fait qu'il y a automatiquement des mélanges de sacrés, d'ethniques, tout ça, qui passent par des ponts, qui proposent des ponts profane. On sort dans le sacré, on vient de profane. Donc, on joue la musique pour s'amuser, comme ça, en plus, le samedi soir. L'esclave, il n'avait pas le droit au sacré de toute façon. Donc, il recrée un sacré. Et en même temps, moi, personnellement, dans ma démarche de chanter avec des messages politiques ou des messages d'amour, des trucs nouveaux par rapport aux enfants, par rapport à une réalité, ma réalité à moi, j'essaye d'inscrire ça toujours dans une démarche entre guillemets de profondeur, de sentiments humains, mais qui traversent le temps, qui sont pas des tubes à la mode ou pour vendre tout ça. C'est donc à partir de là où quand on élargit le temps, on élargit l'espace, on fait un lien avec l'ancêtre, avec on joue ce maloya là d'une certaine façon. Je pense que ça donne une dimension de sacré. Dimension de profondeur, c'est ce que j'appelle moi le sacré. Et moi-même, j'ai repris une certaine spiritualité, une certaine démarche de communication, disons, avec Dieu, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, à travers ce maloya, à travers cette musique, qui est plus qu'un rythme qu'on peut définir, plus qu'une danse avec des pas, plus qu'un chant pour s'amuser, pour faire la fête. C'est plus grandiose que ça, c'est divin. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis.
Tout le monde écoute le maloya à La Réunion ? C'est une musique qui est très présente dans la société réunionnaise ?
Ça a été difficile, parce que c'était une musique, on a dit, une musique des esclaves, donc... Tout ce qui venait des esclaves, de toute façon, n'était pas reconnu comme musique. C'était du désordre, du bruit, du tapage nocturne. Mm-hmm. Et ça a été après interdit parce qu'en même temps un peu subversif, parce qu'appartenant aux plus défavorisés. Il y a eu un trou dans l'histoire dans les années 60. Il y a eu un trou, c'est-à-dire que moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai jamais vu de maloya, je n'ai jamais vu les instruments, je n'ai jamais vu chanter du maloya.
Contrairement vous en chantiez, vous ?
Non, j'ai jamais vu.
Vous y êtes venu à 20 ans, d'accord.
À l'âge de 20 ans, j'ai découvert le maloya à l'âge de 20 ans. Comme tous les Réunionnais à ce moment-là, de mon âge, il restait quelques personnes qui continuaient à marquer la cérémonie d'hommage aux ancêtres avec très peu d'instruments ou pas d'instruments du tout, avec très peu de chanteurs ou pas de chanteurs du tout. Donc, ils continuaient à marquer le coup et même des fois qu'ils continuaient la cérémonie, la croyance... De faire la fête pour l'ancêtre, de mettre à manger, à boire, tout ça pour l'ancêtre, mais qui disait aux enfants de ne pas rester là, qu'ils assuraient leurs enfants en disant « va chez la tante, va chez l'oncle, mais toi tu ne dois pas continuer, tu dois réussir, tu dois rentrer dans la société, tu dois t'intégrer dans une société moderne, donc modèle catholique, blanc, français, tout ce qu'on veut, mais surtout pas garder cette espèce de racine africaine ou malgache. Mm-hmm. Nous, on continue parce qu'on y croit et on en a besoin. » Voilà. Donc, il y a aussi cette honte aussi par rapport au passé, par rapport à l'ancêtre, par rapport à... Tout ça, et ce maloya-là, ça a été un combat, dans les années 70, un combat politique.
Et c'est un combat que vous menez encore aujourd'hui ?
Un combat qu'on continue à mener, mais maintenant, les gamins, ils naissent, ils voient le maloya, ils entendent des CD, ils voient les DVD, c'est visible, c'est les instruments, il y a des stages, c'est à l'école, c'est plus ou moins bon.
D'accord, c'est reconnu comme étant une partie intégrale de la culture réunionnaise.
Oui, maintenant, ça a été un moteur de fierté, d'identité, de reconnaissance culturelle, de valorisation de nous-mêmes, c'est-à-dire toute notre part africaine, notre part malgache, notre part en dessous qui était tabou, qui était honteux, cette part-là, reprendre la valeur. Voilà, c'est ça qui est important dans ce renouveau du maloya, cette ressource-là. Et moi, je me suis dit, à 20 ans, quand j'ai découvert cette musique, cette danse, tout ça, je me suis dit, mais c'est magique, c'est fort, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Comment ça a pu être interdit, ça a pu être étouffé? Heureusement qu'il y en a qui ont gardé ça, hein. Et ça a été un combat politique, un combat culturel et on s'est battu. Les gens aujourd'hui, c'est reconnu, il y a un rapport de force, il y a un rapport économique aussi, c'est-à-dire qu'on vend des disques, ça fait gagner aussi de l'argent. Mm-hmm. Donc tout ce côté-là amène de la valeur dans tous les sens du terme pour nous réunionnais, nous, anciens esclaves, nous, mélangés de différentes racines comme ça, étant un peu encore honteux de tout ça, parce que c'est pas un bon modèle. Il n'y a pas un endroit sur la Terre où on propose le modèle métis. Il n'y a pas un parent qui dit tranquillement à son gamin, tu dois être fier de ton père qui est ça, et ta mère est ça, et ta grand-mère, et tu as 3-4 mélanges, 3-4... C'est compliqué, il n'y a pas de modèle de métissage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut inventer, qu'il faut...
Bien sûr.
À La Réunion, mais en même temps, c'est extraordinaire quand on découvre que ce n'est pas une tare d'être mélangé et c'est une richesse.
Mais j'espère
que,
bien.
Bien sûr. Mais pour moi, c'est extraordinaire d'être tout ça à la fois. Mais les gens, ils sont encore en retenue, en dessous, en cachette. C'est un peu honteux d'être... Donc on est toujours un peu du côté du plus fort, du plus beau, de la plus grande civilisation. Quand il faut être indien pur, ben on est un peu indien pur. Quand il faut être blanc pur, comme le modèle catholique propose, comme le pouvoir propose depuis avant, voilà, on suit un conditionnement comme ça un peu. Et c'est difficile de se dire réunionner dans le sens où on est mélangé de tout ça. Moi, ce que j'appelle la bâtardcité, pour employer un mot gênant.
La bâtardcité.
Bâtardise, si on peut dire. Parce que nous, pour définir en créole, on dit bâtard kaf, bâtard yab, bâtard chinois. Pour dire un certain mélange avec une autre couleur ou une autre nation, comme on dit.
Et beaucoup d'histoires, très très chargées. Alors quand on rencontre les polyphonies corses, qui sont une musique plus ancestrale et ancrée dans la tradition, là on est face à quelque chose de complètement différent, Jean-Claude Aquaviva.
Pas tant différent
pas tant que ça non,
plus.
Non.
Parce que je crois que justement le problème, c'est qu'on a souvent une vision assez erroné, j'ai en fait, de ce qu'est la tradition. Quand vous entendez chanter les polyphonies corses, manifestement, vous entendez chanter le Proche-Orient, vous
oui.
entendez chanter l'Albanie, vous entendez
D'accord.
chanter le Caucase, vous entendez chanter aussi le chant savant que les ordres religieux ont introduit en Corse. Donc la religion, si vous voulez, la tradition, on a souvent une vue statique des choses. C'est-à-dire qu'on dit les polyphonies corses, ah, ça c'est une vieille musique enracinée. Oui, mais c'est une musique qui s'est créée dans un tourbillon qui a commencé il y a des centaines d'années,
d'années.
Et qui continue
aujourd'hui, on pourrait parler de polyphonie corse réunionnaise entendra bientôt.
Absolument, de toute façon nous avons toujours défendu, parce que ça nous semble une chose tout à fait logique, que la tradition n'a de sens que dans la mesure où elle se régénère, où elle
Bien
se
sûr.
Développe, où elle ouvre des voies. Sinon, elle n'est plus une tradition. Parce que si elle ne se développe pas dans ce sens, si elle n'intègre pas, si elle ne se construit pas aussi dans l'altérité, je veux dire, ça ne peut plus être le reflet, je dirais, d'une société qui bouge, qui évolue, qui déplace les frontières, qui déplace les genres. Et notre musique, justement, je crois que ce qui fait sa force, ce qui fait sa permanence, c'est ça. C'est que de tout temps, elle a intégré cela, elle a compris ça. Et donc, c'est justement ce qui nous plaît dans le discours de Daniel, parce que c'est vrai que très souvent, lorsqu'on est surtout issu, lorsqu'on est des gens qui viennent du Nil, l'île, c'est très protecteur. L'île, on a l'impression que parce qu'on est corse, on est les plus ou corse ou réunionnais ou sarde, qu'on est les plus forts, qu'on est les plus puissants, et surtout qu'on est intouchable. En réalité, je veux dire, la vie va, elle produit, elle moissonne, elle moue, etc. Et je veux dire,
et se nourrit,
et se nourrit, voilà. Et on
Bien
continue.
Sûr.
Et ce qui est intéressant, encore une fois dans son discours, ce qui nous a plu dès le départ. Le départ, c'est que il est en même temps un artiste qui a des convictions, qui a des racines, même si ses racines sont multiples, il a des racines, mais surtout c'est quelqu'un qui ne se complaît pas, je dirais, dans la victimisation. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il dit mon bonheur, c'est moi qui dois le produire. Bien sûr, il y a des circonstances historiques. Bien sûr, il y a le colonialisme. Bien sûr, il y a eu l'esclavagisme. Bien sûr, il y a un mode de production libéral qui nous écrase tous. Mais pour autant, on n'est pas des gens amorphes et on ne doit pas considérer qu'on est mort une fois pour toutes. Voilà, on doit continuer.
En tous les cas, d'après ce que j'ai vu, vous êtes bien en vie. Hein.
J'espère
que
bien.
Tout le monde se rassure.
J'espère bien.
Il faut danser, mais il faut laisser l'essence vivre.
Il faut danser, il faut prendre la place. Daniel Waro, Jean-Claude Acquaviva, est-ce qu'un album va naître de cette création et de cette rencontre? Ah, peut-être, c'est pas en prévision.
Il n'y a aucune pression,
pas de pression,
quelle qu'elle soit.
D'accord.
Voilà, et je crois que c'est pour cette raison que ce sera une collaboration qui va durer, parce que elle est sans objectif affirmé.
D'accord.
Je crois que c'est essentiel.
En tous les cas, un grand merci à tous les deux. On vous retrouve sur scène. Ce sera autour de 22h30, quelque chose comme ça, ici même au Frioul. Et encore une fois, vous pourriez peut-être applaudir Daniel Waro et Jean-Claude Acquaviva, parce que ce sont tous les deux de grands artistes.
Merci.
Merci d'être venus au micro de La Grenouille.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.